Mesdames, messieurs, bonsoir. Il faut apprendre à lire et résister au politiquement correct, nous dit Madame Badinter. Quelle curieuse phrase ! Il faut apprendre à lire. Quoi de plus évident ? Bien sûr, tout le monde devrait avoir la possibilité de lire. La lecture est un des trésors les plus élémentaires de notre temps. Une nécessité absolue. Comment pourrais-je me tenir là devant vous si je ne savais pas lire ? Plus encore, comment jouir d'un bon roman, s'orienter en terrain inconnu, apprendre par soi-même, voyager, communiquer, ou même appréhender le monde. Il est parfois des évidences telles qu'elles doivent nous questionner, car, derrière elles, ne devons-nous pas chercher autre chose, un autre sens, un complément de signification ? Ne nous arrêtons pas trop vite à la surface des choses. Plongeons ensemble dans une réflexion plus complexe. Et si Elisabeth Badinter, femme de lettres, philosophe et féministe, en nous suggérant de lire, cherchait précisément à nous mener au-delà de l'évidence? Si, comme l'Alice de Lewis Carroll, elle nous invitait à passer de l'autre côté du miroir? Dès lors, l'évidence, si elle est partagée par tous, ne conduit-elle pas à une forme d'uniformisation de la pensée? Illustrons notre propos par deux exemples. Considérons tout d'abord Tintin au Congo. Lors de la création de la bande dessinée, en 1931, Hergé ne cherchait en rien le scandale. Les colons représentaient les Noirs comme des êtres peu intelligents, quelque peu arriérés, exotiques, avec des tenues tournées au ridicule. Des propos simples, des raisonnements sans réelle logique. L'image du Noir s'oppose à celle du Blanc, bienveillant face à l'ignorance supposée, représentée par des missionnaires censés apporter la civilisation, là où elle est considérée comme inexistante. Tout, dans cette version, respire le colonialisme. Personne ne contestait la dominance des conquérants sur celle des conquis. Il n'en était même pas question. Personne n'y voyait de stéréotypes ou d'images xénophobes. Mais avec le temps, le contexte a changé et l'évidence devient racisme. Prenons un second exemple. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, il était normal pour une femme qui se faisait violenter de se taire face à son mari. Ce dernier était doté d'une forme de légitimité à gérer son couple, pour garder sa femme sous contrôle. On ne parlait pas encore de violence intraconjugale ou de féminicide. Peut-on aujourd'hui tolérer, sans frémir ou réagir, cette situation de contrôle? Le silence assourdissant de l'épouse victime est-il encore d'actualité? La réponse se trouve peut-être dans le mouvement MeToo ou Balance ton porc. Ce qui était évident peut même devenir insupportable a posteriori. Si on réfléchit sans prendre en compte les éléments spatio-temporels, alors on peut affirmer que tout est évidence, mais que rien n'est évident. Et c'est là, mesdames et messieurs, que la citation prend tout son sens. Tout est évidence, si l'on se conforme à la vision normale des choses, c'est-à-dire si l'on pense comme chacun doit penser, avec les œillères du politiquement correct. Par exemple, si l'antisémitisme était répandu du temps du « j'accuse » de Zola, il est aujourd'hui chez nous très heureusement proscrit et honteux, même s'il redresse sa tête hideuse. Dans ce sens, est-ce vraiment la meilleure solution que chacun d'entre nous soit réduit à penser de la même manière? C'est en tout cas restreindre la liberté d'expression à son niveau le plus bas, si ce n'est l'éradiquer. Puisque ne pas pouvoir dire quelque chose commence souvent par ne pas pouvoir le penser. Et c'est d'ailleurs ce que déplore Elisabeth Badinter. Elle nous incite justement à résister au politiquement correct, et donc à la norme. C'est un moyen de nous inviter à développer notre esprit critique et faire tomber les barrières liées au contexte, car rien n'est acquis, tout est construit, comme le disait Gaston Bachelard. Elle nous demande ainsi de faire nos propres choix, d'affirmer notre propre avis, de s'ouvrir à d'autres manières de penser que celles qui est prescrite. C'est la volonté de ne plus se conformer qu'à nos propres valeurs, dépasser la pensée unique. Maintenir la liberté d'expression, c'est, par définition, pouvoir préserver la démocratie, la volonté de maintenir un chacun dans le nous et un nous dans le chacun. C'est donc aussi un enjeu citoyen d'une importance capitale dont nous parle notre cher philosophe. L'équilibre démocratique passe par le dépassement de la norme. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'elle veut nous faire entendre. Vous voyez que l'évidence peut cacher un message plus profond et le faire voir à qui veut bien le lire. Ici, nous sommes dans des enjeux quasi existentiels, non seulement à l'échelle de votre petite personne, mais aussi à l'échelle globale. C'est bien là toute la puissance de la déclaration d'Elisabeth d'Avinter. Et si toute ma réflexion ne vous semble pas évidente, je ne peux que vous conseiller d'apprendre à entendre. Merci. La position dans laquelle vous trouvez actuellement ne détermine pas là où vous finirez. La position dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne détermine pas là où vous finirez. Ça veut donc dire qu'il y a des changements de classe possibles, qu'un ouvrier ou un fils d'ouvrier peut tout d'un coup, ou avec beaucoup de travail, beaucoup d'intelligence, beaucoup de persévérance, beaucoup d'efforts, arriver à devenir président de la République, peut-être. C'est un peu optimiste, j'avoue. Mais ça veut peut-être aussi dire que tout n'est pas perdu d'avance. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une bonne morale. Tout n'est pas perdu d'avance. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quoi de plus simple ? Si celui qui vient de la classe inférieure n'avait pas dû se battre pour être parmi les plus forts, parmi les plus regardés, comment pourrait-il avoir autant de mérite ? Je vous le demande. Merci.